La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquet.
On est de retour dans la deuxième partie de cette midinale du 12 octobre. Alors, au programme de cette deuxième partie, la manif pour tous. Bon, vous êtes contents, hein? Après, on va parler de l'hôpital. Et après, Thibaut?
De champignons.
Eh ben, c'est parfait. On commence par la manif pour tous. Ce samedi-là, à Brest, mais partout en France, étaient organisés des rassemblements de personnes. Donc la manif pour tous, hein, on ne présente pas. En fait, ils s'organisaient là en réaction au projet de loi bioéthique. Donc ce projet, dans les plus grandes lignes, en fait, propose une extension de la PMA à l'ensemble des femmes. Il faut savoir que pour l'instant, la PMA est réservée aux couples hétérosexuels. Donc là, ça l'ouvrirait aux couples de femmes homosexuelles. Il y a aussi un volet sur une plus grande accessibilité à sa filiation quand on est un enfant... Né par insémination, par exemple, ça ouvre la reconnaissance au droit de l'enfant de connaître ses origines. Et à noter aussi, quand même, qu'il y a un truc qui est absolument absent de cette loi, mais c'est en France, c'est comme si le problème n'existait pas, c'est la question des mutilations sur les enfants intersexes. En gros, quand un enfant naît et que son sexe... n'est pas déterminé, et ça arrive à une proportion importante d'enfants, l'enfant va subir ce que le corps médical appelle des interventions chirurgicales, ce que les enfants qui le subissent appellent des mutilations, c'est-à-dire on va opérer l'enfant pour lui déterminer un sexe. Cette question-là, elle n'aura pas d'avancée dans la nouvelle loi de bioéthique. Évidemment, les cathos qui manifestaient ce samedi pour la protection de l'enfant et des droits de l'enfant, ces questions-là, ça les effleure même pas. Bref. Une asso qui propose de protéger les enfants, mais qui laisse des enfants se faire mutiler sans réagir, ça pose question quand même. Juste rappeler que en 2016, l'ONU, par trois fois cette année-là, avait sanctionné la France sur les questions de mutilation des enfants intersexes. Donc trois fois en 2016, que globalement, ça se renvoie la balle entre les affaires médicales et les affaires sociales, et que très globalement, personne ne veut répondre aux journalistes qui posent les questions sur ces questions. On avait déjà parlé d'un texte qui avait été publié par le journal Slate, en avril 2019, si vous voulez comprendre ce que c'est que les mutilations sur les enfants intersexes, lisez ce texte, c'est un témoignage. Le témoignage s'appelle « L'histoire de M, première personne intersexe au monde à porter plainte pour mutilation ». C'est un témoignage extrêmement dur, mais après l'avoir lu, on ne peut plus ignorer que c'est une vraie question, quoi. Voilà, c'était juste pour remettre le contexte dans pourquoi... eux manifestaient, et surtout, il y avait très longtemps qu'ils n'avaient pas manifesté, pourquoi à plein de gens il a semblé absolument nécessaire de manifester en réponse, en confrontation contre ces gens. Bonne nouvelle, en tout cas pour Brest, même la police reconnaît qu'il y avait plus de monde
à la contre-manif
que à leur manif.
Yes.
Donc les chiffres officiels, c'est 220 personnes pour les cathos, et 320 personnes pour les contre-manifestants, en sachant qu'on était sans doute plus nombreux.
D'accord.
Que 320.
Bien joué, les Brestoises.
Et du coup, on était là-bas, et il y a des petits sons. Il y a un enregistrement que je vais vous diffuser. Je vais juste préciser ce qu'on entend et repréciser comment ça s'est passé. Donc on avait rendez-vous pour la contre-manif à Ségalin. On est descendu à Brest du côté de la gare. On s'est pour arriver cours d'Ajot, puisque le rassemblement qui était prévu normalement Place de la Liberté au dernier moment a été déplacé cours d'Ajot. Arrivé cours d'Ajot une première fois, barrage d'hommes préparés à la guerre. Donc on a fait demi-tour, on est remonté, on est passé par la rue de Siam. Donc là, ce que vous allez entendre à un moment, c'est une altercation avec des petits fachos dans la rue de Siam. Et ensuite, vous entendrez du son une fois arrivé en bas, cours d'Ajot, quand on pouvait les voir, les manifestants, en sachant qu'ils étaient eux cours d'Ajot. Il y avait une barrière de flics et puis la contre-manifestation. Vous allez pouvoir entendre aussi à quel point les flics à Brest sont d'une intelligence rare. C'est parti.
Ils sont bien placés. Hein.
Putain, les pauvres gosses, quoi.
Ouais.
C'est
vieille école. Moi, mon papy s'habillait comme ça quand il était petit.
Vous voulez pas les disperser, ça fait longtemps qu'ils sont sur la place
hein. On aimerait bien qu'ils partent aussi.
Dites-leur de se barrer, en fait.
Ils nous écouteront pas non plus.
Ah bon, ah, c'est des anarchistes.
Facho, arrête de filmer, putain de tes morts là!
Les enfants! Comment tu les as eus?
Arrête de filmer!
Comment tu les as eus, tes enfants?
Mais c'est des journalistes.
Non, non, mais
c'est
pas
un journaliste, ça!
Celui qui est derrière la voiture.
Ah là,
la cagoule là! C'est votre collègue.
C'est tellement belle.
C'est sincère, hein! Ça, c'était malvenu! On n'est pas des objets en fait!
Bon, c'est bien amusé en fait.
Apparemment. Ouais,
ouais c'était bien.
Ah, il y a du lourd en face. Hein.
Ouais, ouais, c'était. Mais enfin, comme d'habitude, hein, y a tout le moment où on entend des gens râler parce que les flics filment, c'est vraiment des. Il y a vraiment des flics qui ont passé leur temps à filmer tout le.
Tout le cortège,
toute la contre-manifestation. Donc, avec ce qui se passe à Brest, là, le moyen de faire pression sur les gens qui manifestent, c'est d'envoyer des amendes pour participation à des manifestations interdites. Là, il se peut que ça continue à tomber, quoi, pour celle-là. Enfin, on n'en sait rien, en fait, mais en tout cas, toute la manifestation a été filmée par un flic, comme d'habitude, quoi.
Et les gens étaient masqués ou pas?
Bah, c'est obligatoire, tu sais, ouais. Pour les rassemblements, donc on a bien écouté ça, oui.
Ouais, ouais. Jusqu'aux yeux, quoi.
Ouais, nous, du côté de la contre-manifestation, les gens étaient très très beaux. Il y avait des belles couleurs. En face, c'était moche comme tout. Bref. Donc c'était contre-manifestation de la manif pour tous. On change de sujet, on va parler de l'hôpital. Et du coup, on va réécouter quelque chose que... Enfin, qui s'était passé au micro de Piquet au mois de mars, je pense. C'est notre copine Suzanne qui est infirmière, qui a été cadre infirmier et qui témoignait de l'hôpital du monde d'avant. Comme ça, ça nous permettra de ensuite parler de l'hôpital et des rendez-vous à venir.
La centrale, c'est la radio des chats. On est des terres, en fait.
On est des terres et révolutionnaires. Garage.
La Centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales.
Bonjour Suzanne.
Bonjour.
On sait bien que les difficultés à l'hôpital, elles sont structurelles et qu'elles ne naissent pas d'avant-hier, quoi. On s'était dit qu'on parlait beaucoup de tarification à l'acte à l'hôpital et que, en fait, moi la première, je crois que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Concrètement, et on t'avait demandé si tu voulais bien nous parler de ça et nous expliquer ce que c'était.
Alors la T2A, c'est quelque chose qui a été annoncé en 2003, Mattei, avec le plan hôpital 2007, sous couvert de la loi de financement de l'assurance maladie. Donc 2003, le but c'était de moderniser l'offre de soins et surtout réduire ce dont on parlait beaucoup à ce moment-là, le trou de la sécu, quoi. Autrement dit, et plus joliment dit, les dépenses de santé, il fallait les réduire. Qui ne faisait qu'augmenter parce qu'on sait qu'on a une population qui vieillit, mais qui vieillit malade, elle ne vieillit pas forcément que en bonne santé, parce que du coup, ça demande des soins supplémentaires, parce que les personnes ont un comportement très consommateur vis-à-vis du soin comme ils l'auraient chez Carrefour. Ça existe. Des médecins qui prescrivent à tout va parce que il n'y a pas trop de contrôle, enfin en tout cas il n'y en a pas assez de contrôle par rapport aux dépenses de santé. Donc la T2A est apparue là-dessus en disant on va changer la façon dont on rémunère l'hôpital. Donc dans le plan hôpital 2007, il est surtout question d'une nouvelle gouvernance, c'est-à-dire comment vont être gouvernés les hôpitaux. Et la T2A, cette fameuse T2A, donc cette fameuse T2A qui a été mise de façon progressive entre 2005 et 2008, avec un passage d'un financement par dotation globale, un financement à l'activité. Donc, financement global, ça veut dire qu'avant, on était plutôt sur une logique de moyens. Selon la taille de l'établissement, selon l'activité qu'il avait fait l'année d'avant, on estimait qu'il allait avoir besoin de temps pour pouvoir fonctionner. Alors que là, on passe à un financement à l'activité, donc on est plutôt sur une logique de résultat, où là, on va dire, bon, bah, quelle activité vous avez, et au regard de votre activité, on vous financera. Comment ça marche? Donc, tu es dans une logique plutôt de standardisation des soins, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de logique qu'il y avait dans le privé jusque-là, de se dire, voilà, quand j'ai un patient qui rentre, il s'est cassé la jambe, on doit l'opérer, il va rester 4 jours, il va rentrer, ça coûte tant. Tu vois, vous voyez à peu près le principe. Donc, en fait, on veut appliquer cette logique-là de standardisation à tous les services qu'on appelle de MCO, donc médecine courte durée, ou médecine chirurgie obstétrique, on va dire. Donc, les services où on n'est pas censé rester très longtemps. Et ça fonctionne de la façon suivante. En fait, quand tu as un patient avec une pathologie, une maladie, enfin, voilà, quelque chose, un problème de santé, tu es rentré, si tu veux, dans une espèce de codification qu'on appelle les groupes homogènes de malades. Et cette famille de groupes homogènes de malades, il va être attribué un groupe homogène de séjour et donc un tarif. Donc, si, par exemple, tu es un homme de 50 ans qui vient de faire un infarctus du myocarde, tu vas rentrer dans la catégorie infarctus du myocarde, machin, qui correspond à tel prix. Okay. Voilà, en gros, ce que ça veut dire. Donc, ce qui se faisait avant dans le privé. Sauf que là, c'est partout, public, privé, quelle que soit ton activité, quel que soit ton domaine de spécialité. En tout cas, en médecine, chirurgie, obstétrique, ça va être, c'est comme ça. Ce qui fait que du coup, comme en parallèle, il y a une politique d'austérité et de diminution de la masse salariale, parce que ce qui coûte le plus cher à l'hôpital, c'est les soignants, tu vas avoir double peine et double effet. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'établissement de santé va recevoir, on va lui dire « Ah bah t'as des sous, ou t'en as pas ?» T'as fait assez d'activité, on te donne les sous, on te donne le personnel. T'as pas fait assez d'activité, on te donne pas les sous, on t'enlève du personnel. Qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a fermé des lits. On a fermé des lits parce qu'on avait, on avait une charge salariale qui était beaucoup trop importante par rapport à ce qu'on projetait de nous donner. Donc on a commencé à fermer des lits. Politique d'austérité, politique de diminution de masse salariale. Si on n'a pas d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignantes à mettre au pied des patients, ah, on enlève les lits. Donc, ouais. On enlève les lits. Et moi, là où je travaillais à l'époque, ça s'est traduit par la fermeture d'un service de 30 lits de médecine, par des lits de chirurgie, par on a enlevé les lits, les fameux lits de réanimation, et puis il y a encore 2 ans, on a fermé carrément un service entier de pédiatrie. C'est ce qui explique, par exemple, qu'entre 2006 et 2018, on est passé de 7500 lits de réanimation à 4600.
Putain.
Je dis ça, je dis rien.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé dans les services? Dans les services, bah, du coup, comme on avait beaucoup de mal à rentrer dans cette politique industrielle, ou je sais pas comment dire.
Ouais, c'est ça, c'est industriel.
Ah oui, on est sur de la standardisation.
C'est de là que ça vient.
La démarche qualité est arrivée un peu avant, en 2001, où tous les établissements devaient être certifiés, donc rentrer dans une démarche qualité, comme on avait dans le domaine industriel 30 ans avant. Donc en fait, on a les mêmes logiques que les logiques industrielles qui arrivent à l'hôpital. Certification, conformité qualité, économie, financement aux résultats, etc. Et donc on transforme des soignants qui ont une philosophie de soignant, donc une philosophie plutôt humaniste, en des gestionnaires. Mais des gestionnaires qui ne sont pas là pour ça, et qui ne savent pas faire en plus. Donc dans les services, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, on a commencé à tourner de plus en plus à flux tendu. C'est-à-dire que les effectifs de soignants journaliers devenaient l'effectif minimum dit de sécurité, mais c'était pas une fois de temps en temps, c'était tout le temps. On était tout le temps à flux tendu, c'est-à-dire que tu n'avais jamais un soignant de trop dans le service. C'était même plutôt, tu avais toujours un soignant de moins dans ton service. Tu vois? Quand il y avait un arrêt maladie dans un service, on n'avait pas forcément... Enfin, on avait le droit, dans une certaine mesure, nous, les cadres, d'appeler des vacataires ou d'appeler des intérimaires, parce que ça coûtait parfois trop cher, parce qu'on n'avait plus d'argent, parce qu'on avait déjà 3 millions de déficits et qu'il n'était pas question de creuser plus. Et donc, la seule solution, de façon chronique, ça a été de commencer à faire revenir, en fait, les soignants en poste sur leur jour de congé ou sur leur repos. Ou alors faire des heures sup. Ah oui, parce qu'entre-temps, il y a eu les 35 heures quand même. 35 heures, mais à effectif constant, parce que quand il fallait réduire la masse salariale, voilà. Et puis quand, de toute façon, tu disais, toi, en tant que soignant, bah non, je peux pas, je dois garder mes enfants, mais non, je peux pas, machin, c'était, bah madame, vous allez trouver une solution, parce que de toute façon, on viendra vous réquisitionner. Ouais. Donc, voilà, ça s'est traduit comme ça, mais de façon de plus en plus chronique, en fait, hein, ça a commencé doucement, et puis bah, après, c'est devenu d'exceptionnel, c'est devenu un quotidien, et avec une pression de plus en plus importante vis-à-vis de ça, quoi. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Bah, faut savoir qu'il y a des tarifs dans les groupes homogènes de malades, dans les catégories de patients, il y a des choses qui rapportent plus que d'autres. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une logique industrielle? Bah, tu vas vers ce qui rapporte.
Oui.
Donc, on va choisir les spécialités des établissements de santé, non pas en fonction d'un besoin de population, mais en fonction de ce que ça va rapporter à l'établissement de santé pour pas qu'il ferme. Parce que c'est ça, le truc à la clé, c'est de dire, bah, si vous faites pas... Et si vous n'êtes pas rentable ou si vous êtes trop en déficit, on va fermer, monsieur, dame. Donc, concrètement, les médecins ont une pression de plus en plus importante sur la sélection des patients. On fait attention à qui on admet, qui on n'admet pas. Tiens, on va développer plutôt telle spécialité plutôt que telle autre parce qu'on s'en sortira mieux.
C'est un peu glaçant.
Et la pression.
Oui.
Pardon.
C'est un peu glaçant ce que tu racontes.
Ouais, je sais, mais ça, c'est les, fin, c'est les souterrains de ces 15 dernières années, on est bien d'accord. Mmh.
Est-ce qu'il y a, dans l'industrie ou dans les diverses autres sphères économiques, disons, où ça s'est répandu, ça allait aussi de pair avec le développement de toute une partie du personnel et sa spécialisation dans le management, les rapports, enfin les PowerPoint, tout ça, quoi.
Ouais, mais c'est venu en même temps, en fait. C'est venu par la force des choses et par ça, en fait, où on s'est retrouvé à devoir encaisser la casquette de gestionnaire de plus en plus importante. Dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009, donc là, on est sur Bachelot, toujours dans un objectif de retour à l'équilibre des hôpitaux parce qu'on est encore à je ne sais plus combien de millions de déficits. La gouvernance qui avait été commencée à être réfléchie par Mattei, on accentue le truc et on donne de plus en plus de pouvoir aux directeurs des établissements. Et qui sont les directeurs des établissements? Ce sont des gestionnaires, ce ne sont pas des médecins.
Ouais, ce ne sont plus des soignants aussi.
Et ce ne sont pas du tout des soignants.
Ouais.
Ce sont des gestionnaires. Des DRH, des directeurs économiques, voilà, mais en tout cas, ce ne sont pas des soignants. Et c'est pire que ça, parce que même au sein des services mêmes, on commence à vouloir découper les établissements, un établissement de santé, en des pôles, hein, on parle de pôles, du pôle médecine, du pôle chirurgie, du pôle gériatrie, machin. Et au sein de ces pôles, il y a un trio, le médecin, bon, le cadre de santé, ok, bon, qui est issu de la filière soignante, mais qui est plus avec une étiquette de manager. Mmh. Et d'un seul coup, pouf, on voit débarquer un cadre administratif.
Qui sert à quoi? À remplir les tableaux de bord.
Il sert à remplir les tableaux de bord.
Ouais.
Bien évidemment.
Donc en fait, c'est là, on est sur de la masse salariale, tu vois, enfin de l'argent qui vient pas dans le soin, quoi. Et on développe de plus en plus ces cadres administratifs, là où il faudrait développer plutôt.
Là où il faudrait des infirmiers.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Ouais.
C'est ouais. Ça. Les cadres de santé, moi, comme j'étais encore cadre de santé, on était en général allé à la belle époque, on va l'appeler comme ça, un cadre de santé pour un service d'une trentaine de lits.
Ouais.
Il faut savoir que maintenant, un cadre de santé, qui est issu, je le dis bien quand même, de la filière soignante, même s'il est devenu manager, maintenant, c'est un cadre de santé pour 60-90 lits.
Ouais.
Et on trouve ça normal. Alors, quid de, du management de proximité, hein, c'est-à-dire que là où on pouvait encadrer les équipes dans le sens où s'assurer qu'il y avait une qualité des soins, qu'il y avait le matériel, que les gens étaient formés, que les choses étaient faites correctement, qu'on pouvait coordonner le parcours de santé des patients, qu'on faisait les entretiens avec la famille, etc. pour le parcours de soins et tout, bah là, c'est plus possible. Donc, c'est une charge de travail qui retombe sur les infirmiers qui, déjà, eux, sont asphyxiés.
Ouais.
Et les médecins aussi, du coup. Hein. Tout le monde est dans le même bateau. Hein. Donc, ce qui se passe à cette époque-là, après 2009, là, vers 2000... Ouais, je crois que le summum, pour moi, ça a été entre 2012 et 2014, où on se retrouve, en fait, à des réunions de service où, finalement, on parle moins des soins, des protocoles de soins, des problèmes d'équipe, etc., que des tableaux de bord du nombre de séjours qu'on a fait et des millions de déficits qu'on est en train de faire avec toute la culpabilité qu'on met sur les épaules des soignants en leur disant « Mais vous n'avez pas fait assez de séjours, les enfants, va falloir vous réveiller !» Et on fait citer les médecins devant tout le monde, disant, c'est bien, vous avez augmenté votre activité, vous êtes bien, vous allez être chef de service, vous, c'est super. Et puis celui qui avait une activité qui était plus compliquée parce que plus centrée sur des choses qui étaient pas prévisibles, je pense notamment par exemple à toutes les pathologies chez les personnes âgées, eux, on leur disait, non, mais vous êtes juste mauvais, quoi. Vous êtes juste mauvais, donc déjà, un, vous allez gicler de votre poste, et puis en plus, je pense que on va encore réduire votre activité.
Ouais, ouais, c'est le ressenti qu'il y a aussi à l'hôpital de Brest et qui est exprimé par des infirmiers, par des médecins, où, par exemple, ils parlaient de... Le 14 février, là, il y a eu un gros rassemblement pour l'hôpital de Brest, mais c'était un rassemblement national pour la santé. Où des médecins dénonçaient un truc, déjà d'une part le nombre de postes dits ouverts à l'hôpital de Brest où en fait c'était que des cadres administratifs et que du coup pour eux ça comptait pas. Et dans un second temps, ce que tu viens de dire, il y a un médecin qui a un peu craqué en parlant en disant qu'il en avait ras le cul de la communication bling bling de l'hôpital. Ou si tu veux, quand tu arrives à l'hôpital de Brest, quand tu rentres dans l'hôpital, t'as un grand mur, ça a coûté des fortunes, t'as un grand mur qui diffuse des portraits de soignants. Et qui sont donc hyper valorisés. Et en fait, c'est toujours les mêmes services qui sont valorisés, c'est-à-dire ceux qui sont effectivement rentables, enfin dits rentables. Ouais. Et le médecin disait, j'en peux plus en fait, j'en peux plus de cette communication qui accentue déjà les dysfonctionnements de l'hôpital, quoi. Et c'est exactement ce que tu dis. Et du coup, à Brest, en Bourgogne, c'est les mêmes constats, quoi.
Ah, mais c'est les mêmes partout. Et en Île-de-France, c'est les mêmes. Parce que moi, il y a beaucoup de choses que je raconte là, c'est de l'Île-de-France.
C'est l'Île-de-France.
Et en parlant avec mes collègues de Bourgogne, c'est partout pareil. C'est clair. Et non, mais depuis quand il y a des cellules de com' dans les hôpitaux?
Ouais.
C'est le truc qu'on n'avait jamais vu. Mais jamais vu. On n'avait jamais eu un service de com' avec 4 personnes à l'intérieur avant 2010, quoi.
Mais c'est parce que normalement, il n'y a pas besoin, en fait.
Mais en fait, on n'est pas là pour ça.
Ouais, ouais, clairement. Et comme
on n'est pas là pour briller. On n'est pas là pour briller plus que le copain d'à côté, en fait. Ouais. Puisqu'on est censé être une mission de service public et faire exactement la même chose.
Ah ouais, c'est...
Bon, après, avec chacun ses domaines de spécialité. Mais je veux dire, on n'est pas Amazon, on n'est pas Carrefour. On n'a pas à être en concurrence les uns avec les autres. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Moi, là, j'ai failli gerber cette semaine parce que j'ai un des hôpitaux à côté de la série où je travaillais avant. Mais attends, sans déconner, en 15 jours, ils ont fait deux fois le 20h, et puis là, ils sont dans 20 minutes, ils sont dans Actu Machin, ils sont dans le truc. Quand tu fais les sous-marins et tout ce qui se passe à l'intérieur, et quand tu vois l'image qu'on en donne dans les médias, mais c'est juste à pleurer.
L'hôpital dont tu t'es barré, hein, c'est ça?
Ouais, c'est juste à pleurer. Moi, j'ai juste envie de vomir, en fait. Je me dis, mais en fait, ils ont passé un contrat avec qui? Chez les journalistes, avec qui ils ont passé un contrat pour passer autant à la télé en ce moment.
Et pour dire quoi exactement?
Mais pour dire que c'est formidable, parce que tu te rends compte, ils ont ouvert 14 lits de réanimation d'un seul coup d'un seul. Ce qui se passe, c'est que les respis sont en train de tomber les uns derrière les autres parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. que c'est formidable parce qu'ils accueillent les patients, machin, bidule, mais alors qu'ils n'ont pas le personnel qualifié en face, c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent pas des personnes qui mettent au pied des idées patients. Mmh. Ouais. Alors, c'est toujours, tu sais, c'est toujours tangent, en fait, c'est toujours un cheveu. On te dit, non, mais si, le personnel est qualifié, regardez, il y a au moins une infirmière anesthésiste. Mmh. Ah oui, effectivement, il y a une infirmière anesthésiste, mais les autres... Oui, mais c'est des infirmières, quand même. Donc, vous entendez, les infirmières, ce sont des infirmières. Ben non, une infirmière, c'est pas juste une infirmière, en fait. Et un médecin, c'est pas juste un médecin non plus. Un médecin généraliste peut pas s'improviser médecin de réanimation. C'est pas vrai.
Ouais.
Bon, bref, tout ça, c'est pas très réjouissant, on est bien d'accord.
Quelles sont les réformes pour toi qui ont le plus maltraité l'hôpital ? Tu viens de nous faire... 15 ans de politique à l'hôpital, et c'est bien quand même de prendre un peu de recul, quoi. Même si, effectivement, c'est pas réjouissant. Mais c'est... On comprend mieux.
Ouais, c'est pas réjouissant. Et il commence à parler d'une dotation modulée à l'activité. Tu sens le sens des mots, là ?
Ouais.
De dotation modulée à l'activité. J'aime beaucoup ce mot « modulé ». Voilà. Donc, ouais, je sais pas quelles seront les prochaines réformes, ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que l'hôpital fait peur, que les gens se révoltent parce que le fait que les médecins ne veulent pas être gestionnaires, ça fait des années qu'ils le décrivent.
Ouais, d'ailleurs.
Avant la crise, je rappelle qu'il y a quand même eu, je ne sais pas combien de médecins qui donnaient leur démission de leur mission gestionnaire, parce qu'on a fait croire qu'ils démissionnaient de l'hôpital. Non, non, ils démissionnaient de leur mission de gestionnaire, parce qu'ils n'en peuvent plus, quoi.
Merci beaucoup.
Mais de rien.
Bon courage pour ta semaine à venir. Si tu pètes des plombs, tu peux appeler le répondeur Piquet ou le répondeur à Centrale. Pierre, c'est quoi le numéro ?
C'est 09 50 39 67 59.
Et comme ça, tu peux cracher ta Valda.
Ok, ça marche.
On te fait des gros bisous.
Bon, allez, bisous.
Bisous.
Merci beaucoup, merci. À bientôt.
Salut.
Donne-nous des thunes pour sauver nos fesses. L'hôpital est mort, je n'ai plus envie. Ouvre-nous des lignes pour sauver des vies. Au clair de la lune, mon ami Agnès. Donne-nous des thunes pour sauver nos fesses. L'hôpital est mort.
Voilà, du coup, c'était une interview de Suzanne, donc, qui avait été réalisée pendant le confinement, donc au mois de mars, je crois, mars ou avril. Et c'était aussi pour rappeler un peu ce qu'était l'hôpital aujourd'hui. Et ça nous permettait surtout de relancer donc ce jeudi, le jeudi 15 octobre, mobilisation des secteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux. Et je vais lire, si ça vous va, si ça vous va pas, je sais pas comment je fais, mais... Ça vous va ?
Ça
si je
va.
Lis le message de la CGT CHU Brest. Alors, point d'information du syndicat CGT Brest, du CHRU Brest Carré. Mobilisation du personnel de la santé le jeudi 15 octobre. La CGT appelle à la mobilisation pour le personnel de la santé, du médico-social et du social, à se mobiliser pour exiger la réouverture des négociations du Ségur de la santé. En effet, la CGT a refusé de signer le protocole d'accord car elle estime qu'il est insuffisant, voire dangereux. Le syndicat appelle également le secteur du médico-social et du social à la convergence avec les hospitaliers car son personnel est exclu des revalorisations salariales du Ségur de la santé. Les modalités d'action sont les suivantes. Rassemblement à 10h place de la Liberté le jeudi 15 octobre pour une manifestation jusqu'à la sous-préfecture de Brest. Voilà pour... cette journée de grève, en sachant que certains d'entre nous y seront, on essaiera de prendre du son, et que cette journée de mobilisation, se terminera ici au studio, Piquet's pour une école volante. C'est le retour des écoles volantes à 19h autour des questions de santé en présence de professionnels de santé et de certains d'entre nous. Vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, t'as été parfaite.
Ouais, je sais.
Donc c'est à 19h ?
Ouais, c'est 19h prise d'antenne. Et rancard un peu avant pour nous, quoi. Tout ça. Thibaut, t'es prêt ?
Ouais.
Alors, petite chronique champignon.
C'est ça, je vais vous parler du champignon de la fin du monde. C'est un livre de Anna Lowenhaupting. Je vais essayer d'être à peu près clair, ça a été un peu préparé à l'arrache. Donc le champignon de la fin du monde ou sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. C'est un bouquin d'une anthropologue, donc Anna Tsing. Et donc le champignon qui pousse dans les ruines du capitalisme, c'est pas après le capitalisme qui se serait écroulé et qu'on reconstruirait sur ces ruines, c'est plutôt dans les ruines créées par le capitalisme. Que ce champignon va pousser, puisque c'est un champignon qui va pousser dans les forêts qui ont été dévastées, notamment pendant, toujours en ce moment, par la surexploitation, enfin l'exploitation des forêts. Je vais vous parler un peu de ce bouquin, et pour ça je vais vous parler d'un mot dont elle parle, c'est la saccabilité, qui vient de l'anglais, c'est pour ça que ce mot est vilain. Et donc, c'est la capacité d'un projet à changer d'échelle sans que se modifie le cadre qui définit ce projet. L'idée, c'est que tous les éléments du projet vont être insociables au caractère indéterminé des rencontres. C'est-à-dire qu'en gros, si la Radio Piquet's était un projet saccable, on pourrait devenir une radio nationale sans rien changer du tout du fonctionnement de la radio. C'est juste qu'on mettrait plus d'énergie pour éliminer tous les éléments de diversité qui pourraient apparaître et qui feraient modifier la façon dont fonctionne la radio. Et donc pour elle, le capitalisme s'est développé à partir de projets saccables, et notamment le premier, ça a été les plantations de canne à sucre, donc les plantations coloniales au 16e, 17e siècle. Donc l'idée, ça a été de prendre une plante qui poussait en Nouvelle-Guinée, donc la canne à sucre, dont on savait qu'on savait cloner, et pouvoir la faire pousser à plusieurs endroits du monde dans lesquels le climat était approprié. Et donc il fallait rendre ce projet saccable. Donc par exemple, c'était sur ces terres où on voyait qu'on pouvait faire planter la canne à sucre, il fallait qu'il n'y ait plus de population. Donc on allait, c'était donc dans les Caraïbes par exemple, on dégommait toute la population sur place. Et il fallait trouver de la main-d'œuvre pas chère pour la faire pousser, qui n'a rien à voir avec le territoire. Donc on allait chercher des esclaves en Afrique, on les ramenait sur ces terres-là, on les exploitait pour faire pousser la canne à sucre. Donc l'idée, c'était de développer ces plantations dans le monde entier, et pour ne pas avoir à modifier l'organisation et pouvoir avoir une rentabilité maximale, c'est empêcher, détruire tout ce qui pourrait arriver d'incontrôlé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lien entre la plantation et le lieu où c'est planté, qu'il n'y ait pas de lien entre les gens qui plantent, qui vont être utilisés comme main-d'œuvre et le lieu dans lequel c'est planté. Et donc pour elle, c'est ce modèle qui a été ensuite utilisé dans l'industrie et pour les usines, et qui a permis donc de mondialiser, on va dire, enfin de développement du capitalisme dans le monde entier. Et donc elle va opposer ce modèle saccable, donc qui a détruit l'environnement et notamment les forêts, à la culture du matsutake, qui est un champignon qui est très consommé au Japon notamment, mais qui suite à, on va dire, au développement historique et à la fin de la paysannerie au Japon, ne pousse plus au Japon, mais dans les forêts d'Oregon. Et donc elle explique un peu ce modèle économique, avec tous les intermédiaires, des travailleurs pauvres en Oregon, jusqu'à la consommation au Japon, et c'est un champignon qui est très très cher, qui est consommé par les plus riches du Japon. Et donc je vais vous lire une petite partie du texte où elle parle un peu de comment ce champignon en est arrivé à pousser dans les forêts d'Oregon. Donc, comme toute chronique qui a été mal préparée, je vais lire un long texte pour compenser. Merci la snob de m'avoir appris cette méthode. Le Nord-Ouest Pacifique américain a été le creuset de la politique et de la pratique en matière de production de bois au XXe siècle. Après le carnage opéré dans les forêts du Middle West, les industries forestières se sont rabattues sur cette région, faisant d'elles leur nouveau centre d'attraction. Au même moment, la gestion scientifique des forêts devenait un enjeu de la gouvernance nationale aux États-Unis. Des intérêts privés et publics, et plus tard environnementalistes, ne cessèrent de s'affronter sur cette question des forêts du Nord-Ouest Pacifique. Après de multiples négociations, un compromis scientifico-industriel forestier fut plus ou moins accepté. Plus que jamais, on avait ici affaire à des forêts auxquelles on a tenté d'appliquer, autant que possible, un traitement similaire à celui des plantations scalables. Dans les années 60 et 70, à l'apogée de l'exploitation forestière, associant le privé et le public, on a procédé à une monoculture dite équienne, basée sur des peuplements d'arbres de même espèce et d'âge égal. Une telle gestion nécessitait beaucoup de travail. Les espèces d'arbres dont on ne voulait pas, et donc par la même occasion toutes les autres espèces végétales étant pulvérisées avec des herbicides. Le feu était absolument exclu. Des équipes de travailleurs aliénés plantaient des arbres supérieurs. L'élevage était brutal, régulier et généralisé. L'espacement était prévu pour un rendement maximal et un travail entièrement mécanisé. Les arbres à bois d'œuvre étaient un nouveau genre de canne à sucre, géré pour accroître de manière uniforme, sans interférence multispécifique, taillé et récolté par des machines et des travailleurs anonymes. Malgré ses prouesses technologiques, le projet de transformer la forêt en plantation a eu des résultats au mieux inégaux. Avant cette transformation, les scieries s'étaient remplies les poches en ne coupant que les arbres qui avaient le plus de valeur. Après la Seconde Guerre mondiale, dès lors que les forêts nationales ont été ouvertes à l'exploitation forestière, l'écrémage était encore d'actualité, mais selon une nouvelle norme en rigueur. Remplacer les arbres arrivés à maturité par de plus jeunes, dont la croissance était plus rapide. La coupe à blanc, ou gestion équienne, fut alors introduite. Quant à elle, pour pallier les insuffisances qu'entraînaient des récoltes encore trop semées de choix et d'embûches. Mais la repousse des arbres, par le biais de cette gestion scientifico-industrielle, ne donna pas les résultats ni les profits escomptés. Là où les espèces de grands arbres avaient pu se maintenir grâce aux mises à feu auxquelles procédaient les Indiens, il se révéla dorénavant difficile de produire les bonnes espèces. Des sapins et des pins tordus poussaient là où de grands ponderosa dominaient auparavant. Puis le prix du bois du nord-ouest pacifique dégringola. Démunis devant les difficultés à faire des récoltes rentables, les entreprises forestières commencèrent à chercher ailleurs des arbres avec un coût moins élevé. Sans soutien politique ni fonds accordés au commerce du bois, les départements des services des forêts de la région perdirent leurs moyens, alors que le maintien de forêts sur le mode des plantations atteignait des coûts prohibitifs. Les défenseurs de l'environnement commencèrent à se pourvoir en justice, exigeant des normes plus strictes de protection et de conservation. On leur fit porter la responsabilité de l'effondrement de l'économie forestière, mais les entreprises concernées et la plupart des grands arbres avaient déjà disparu. En 2004, lorsque je me suis promené dans l'est des Cascades, les sapins et les pins tordus avaient largement envahi le territoire, qui, autrefois, avait été le quasi-royaume des pins ponderosa. Même si le long des autoroutes, des panneaux indiquaient encore « exploitation forestière », on avait du mal à s'imaginer cette période du règne industriel. Le paysage était constitué de taillis de pins tordus et de sapins, trop petits pour qu'on puisse utiliser leur bois et pas suffisamment spectaculaire pour en faire une zone de loisirs. Cependant, autre chose avait surgi dans l'économie régionale, les matsutake. Dans les années 90, les chercheurs du service forestier évaluèrent que la valeur commerciale annuelle du champignon atteignait celle du bois. Les matsutake étaient à l'origine d'une économie forestière non saccable sur les ruines d'une industrie forestière scalable. J'ai du mal à lire ce mot. Et donc, voilà, ce champignon donc, pousse sur les forêts qui ont été dévastées, puisqu'il pousse auprès des pins, sous les pins. Et c'est des arbres qui ont besoin de beaucoup de lumière. Et en fait, c'est une sorte de symbiose qu'il y a avec ce champignon. Ce champignon va pousser à des endroits qui sont peu fertiles et dégrader la roche et le sable pour fournir en nutriments, on va dire, les pins qui vont leur permettre de pousser. Du moment où on laisse la forêt, si on n'entretient pas la forêt de manière à laisser suffisamment de lumière aux pins, les autres arbres vont commencer à pousser. À faire de l'ombre au pin et à rendre plus fertile le sol, ce qui va permettre à d'autres végétations de pousser. Et donc les pins finissent par ne plus pousser, et donc les champignons matsutake finissent par disparaître. C'est ce qui arrivait en fait au Japon, puisque ces champignons ne poussaient que parce qu'il y avait une vie paysanne encore et que les paysans vivaient de la forêt, utilisaient les épines de pin pour fertiliser les sols, utilisaient le bois pour notamment se chauffer ou pour d'autres choses, et donc entretenaient la forêt et l'éclaircissaient, la coupaient, et du coup permettaient à ce champignon de pousser. Et il se trouve que la vie paysanne étant abandonnée, ce champignon ne pousse plus, mais pousse aujourd'hui aux États-Unis. Mais il y a un peu ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a toujours cette idée, donc ce qu'elle dit avec les environnementalistes, il y a des associations environnementalistes qui commencent à porter plainte contre les gens qui viennent, qui utilisent ces forêts finalement. Et ce qui va se passer, ce qu'elle explique un peu, c'est que du coup, moins il y aura de gens à l'utiliser et à l'entretenir, plus le sol va devenir fertile, et moins il va y avoir de champignons, quoi. Donc, alors qu'au Japon, ce qu'on est en train de faire, c'est plutôt de défertiliser le sol, en quelque sorte, d'essayer de réintroduire une vie qui n'est pas paysanne, puisque le monde paysan a disparu, mais et de travailler avec les gens qui ramassent ces champignons, de manière à favoriser les pins et à retrouver ce champignon. Et c'est un truc un peu... C'est pas une anticapitaliste, cette personne qui explique ça. Mais c'est intéressant, en fait, de réintroduire un peu aussi, on va dire, l'être humain dans dans l'écosystème, quoi. Et de montrer, en fait, que... si on veut faire quelque chose d'écologique, c'est pas juste faire des parcs naturels où on interdit la présence humaine et où on fait juste du tourisme, quoi. C'est l'idée quand même qu'il y a une vie et que localement, en fait, il y a une sorte d'équilibre qui se crée entre l'être humain et là les forêts, et que si on supprime totalement l'être humain de ces endroits, comme si il n'avait pas sa place, quoi, on va juste changer l'équilibre et avoir autre chose, quoi. Et notamment, en fait, elle explique aussi donc cette histoire de mise à feu. Les forêts étaient brûlées régulièrement pour faire des brûlées, la rendre fertile, et en fait les pins résistent au feu, et alors que les autres qui vont avoir plutôt tendance à faire de l'ombre aux pins sont facilement inflammables. Et donc que ces mises à feu et que ces brûlis aussi avaient, dans la mesure où elles restaient locales, et elles avaient un intérêt aussi paysan, quoi, permettaient justement l'entretien de cette forêt. Et en fait, en s'attaquant à ces brûlis et pas à tout le reste du système capitaliste qui, lui, il détruit, un peu comme on empêcherait des pêcheurs locaux d'aller pêcher parce qu'ils épuisent la ressource, alors qu'on permet au capitalisme de pêcher à bloc dans tout le reste de l'océan. On s'attaque aux mauvais problèmes, quoi. Et en fait, elle va plutôt parler donc, de ce truc de projet saccable, où c'est plutôt à réfléchir localement ce qu'on veut faire, l'équilibre qu'il y a, et réfléchir à comment l'entretenir, sans partir dans des trucs où forcément l'être humain, tout ce qu'il fait, c'est merdique et détruit l'environnement, et comme s'il n'avait pas quelque chose à jouer là-dedans. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant, même s'il y a plein de trucs qui sont critiquables dans ce livre. Et donc voilà, je vous conseille de le lire, c'est plutôt intéressant. Donc, où on suit tout son chemin, où elle va nous parler donc, de tous ces travailleurs pauvres qui vont être pour beaucoup des gens qui ont émigré des pays d'Asie suite aux différentes guerres, ou des vétérans du Vietnam qui se retrouvent là-dedans. Enfin, il y a toute une diversité de personnes le long de cette chaîne. Où on part donc un projet non saccable, ça va être finalement les cueilleurs pauvres en Oregon qui sont pas employés. C'est des fois des gens qui quittent leur emploi juste pour faire ça. C'est même pas un emploi saisonnier, c'est quelque chose de très individuel, quoi. Mais il y a toute une vie qui se crée là, et comment c'est récupéré par le capitalisme qui va, à travers ces chaînes, quoi, arriver à capter la richesse et en faire quelque chose de vendable de façon capitaliste pour se faire de la thune, plutôt au Japon, quoi. Et donc elle passe par tous les intermédiaires, et c'est plutôt intéressant. Et il y a un article qui a été écrit... sur le monde diplo, que que je trouvais un peu injuste de, du mois de septembre. Et donc, qui parle notamment de ce livre. Et donc, le titre de l'article, c'est « Chanter l'âme des forêts » ou « Cultiver l'environnementalisme des riches ». Et donc, c'est un article de Franck Poupeau, qui est un chercheur du CNRS, où lui va expliquer que depuis quelques années, on voit exploser le nombre de bouquins sur la forêt, de toutes les manières, enfin, de différentes, quoi. Il parle aussi du livre de Vidalou, « Être forêt », quoi, dont on a déjà parlé. Et en fait, lui, il explique que c'est un peu... on développe ces thèmes un peu avec un peu de spiritualisme, un peu de trucs où on fait des câlins aux arbres et tout, où on développe un peu tout ce truc de forêt à différents secteurs. Ça va être, disons, plus scientifique ou plus pour tout le monde. Mais avec cette idée de placer les non-humains, de parler plutôt de rapports entre humains et non-humains pour effacer les rapports de domination. Et il prend comme un des livres principaux, notamment celui de Tsing, et je trouve que la critique est assez injuste, parce que c'est pas ce qui est dit dans le bouquin, c'est pas, comme il dit, une apologie des forêts dévastées, même si c'est ce que dit le quatrième de couverture, mais disons que si on écoute ce que dit l'auteur, dans les interviews, c'est justement pas ça. Et je voulais citer dans une de ses interviews ce qu'elle disait à ce propos. Elle disait les Matsutake sont une formidable ressource narrative pour raconter nos vies. Mais l'histoire de ces champignons qui parviennent à renaître sur les sols abîmés n'est pas une métaphore pour dire que, pour nous aussi, à la fin, tout ira bien. Certains lecteurs ont interprété mon livre comme une promesse d'espoir. Ce n'était pas mon but. Je voulais montrer que, dès lors que nous ne pouvons plus croire à l'optimisme porté par le grand récit du progrès, le mieux que l'on puisse faire, c'est espérer des lieux viables et se débrouiller pour vivre. Donc c'était... il y a quelque chose de... regarder plutôt dans les interstices du capitalisme, ce qui existe, quoi, et montrer que... il existe des endroits qui sont... elle va parler de péricapitalistes qui vivent, enfin, qui continuent de vivre malgré le capitalisme, quoi. Et que ça reste des endroits intéressants à aller regarder pour réfléchir à autre chose, quoi. Mais elle n'en fait pas non plus une apologie ou comme si c'était formidable, ces trucs-là. Évidemment que quand elle raconte toute l'histoire des travailleurs précaires et pauvres, elle n'en fait pas un truc génial, comme si c'était exactement ça qu'il fallait faire, quoi. Mais disons qu'elle en fait une base pour réfléchir, quoi. Et voilà ce que je voulais dire à peu près sur ce bouquin, si c'était très clair.
Ça me... ce que tu racontais, des forêts de l'Oregon jusqu'au Japon, ça m'a fait penser à un livre que j'adore. C'est un livre de Ken Kesey. Ken Kesey, il est très connu pour avoir écrit « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Mais il a aussi écrit un autre livre qui s'appelle « Et quelquefois, j'ai comme une grande idée ». C'est publié chez merveilleuse maison d'édition Monsieur Toussaint L'Ouverture. Et en fait, ça raconte cette histoire. C'est dans les années 60, dans les forêts de l'Oregon. Il y a une famille de pourris qui s'appelle les Stampers et qui sont à la fois des bûcherons mais aussi propriétaires d'une scierie. Et qui vont casser une grève, un début de mobilisation des travailleurs de plus en plus appauvris qui travaillent dans les forêts de l'Oregon, parce que justement il y a une transformation de la manière d'exploiter ces forêts. Alors c'est pas le sujet principal, c'est pas les forêts de l'Oregon, c'est cette famille de pourris et de débiles, quoi, enfin, et violents, tout ça. Mais ouais, il y a quand même ça tout le temps en arrière-fond sur qu'est-ce qu'on est en train de faire de ces forêts dans l'Oregon, quoi. Et c'est un super livre. Voilà.
Ok.
On fait une pause ?
Yep.
Bon, alors, attention. On va écouter Alain Bashung et Johnny Cash. Comme ça, il y a certains auditeurs qui pourront chanter chez eux.
J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? Des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez? Déchiffrer les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises. Couper court à l'appel de la brise et livrer les secrets des banquises. Est-ce que vous en avez? 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 Est-ce que vous en avez?
Someone who cares, your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares, your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.